Chapitre 10. Le surlendemain de son entrevue avec Mrs. Bread, Newman retourna à Paris. Il avait passé 24 heures à Poitiers, à lire et relire son petit papier, et à réfléchir sur la conduite à tenir en cette grave occurrence. À peine toucha-t-il barre à son appartement du boulevard Haussmann. Il avait hâte de se rendre rue de l'université et de s'informer si Madame de Bellegarde y était de retour. Le concierge lui apprit qu'en effet la marquise était revenue la veille au soir avec son fils, ajoutant que s'il désirait rentrer, ils étaient tous les deux à l'hôtel. Le drôle souriait d'un air narquois qui semblait dire « Entrez, si vous l'osez ». Il était évidemment au courant des récents événements. Newman resta un moment interdit, le regardant et tortillant sa moustache, puis tourna brusquement les talons. Non pas qu'il eût peur d'entrer et de se trouver de nouveau en présence de ses ennemis, non, mais il soignait son coup de tonnerre. Il l'aimait et ne pouvait se décider à s'en séparer. Il lui semblait pendant qu'il le tenait suspendu, menaçant au-dessus de leur tête, voir leur visage livide d'épouvante. Il avait pris rarement autant de plaisir à jouir de l'effarement humain et se sentait disposé à vider tout à son aise la coupe de sa revanche contemplative. Il faut ajouter aussi qu'il ne savait pas encore exactement comment il devait s'y prendre pour assister aux effets de son tonnerre. Envoyer sa carte à Madame de Bellegarde serait une cérémonie inutile. Elle déclinerait sans aucun doute l'honneur de le recevoir. D'un autre côté, impossible de forcer sa porte pour arriver jusqu'à elle. Il en serait vraisemblablement réduit à la triste satisfaction de lui écrire. Mais il se consola dans une certaine mesure en pensant qu'une lettre amènerait peut-être une entrevue. Il retourna donc chez lui et se sentant fatigué. Soigner une vengeance est, il faut l'avouer, une occupation fatigante. Il se jeta dans un de ses fauteuils de brocart, étendit ses jambes, fourra ses mains dans ses poches, et tout en suivant des yeux le soleil couchant qui disparaissait lentement derrière le toit des maisons de l'autre côté du boulevard, commença à rédiger mentalement une froide épître à Madame de Bellegarde. Il en était au beau milieu de sa composition quand son domestique ouvrit la porte et annonça « Madame Bread ». Newman se leva vivement, étonné. Quelques secondes après, il aperçut sur le seuil la femme avec laquelle il avait eu une si intéressante conversation au clair de lune à Fleurières. Mrs. Bread portait la même toilette que ce soir-là et Newman fut frappé de son air distingué. Il l'accueillit avec une grande cordialité, la priant de s'asseoir et de se mettre à son aise. Il y avait quelque chose de doux et de mélancolique dans la timidité avec laquelle obéit Mrs. Bread. Elle ne jouait pas à la confusion, ce qui eût été tout simplement ridicule, mais elle faisait de son mieux pour dissimuler son embarras qui, à son âge et dans sa position, lui semblait sans doute prétentieux. Bien certainement, elle n'avait jamais osé supposer qu'il lui arriverait de rendre visite en ami, à la tombée de la nuit, à un célibataire millionnaire, dans de somptueux appartements, sur les nouveaux boulevards. « Je pense que je n'ai pas oublié mon rang et ma place, monsieur, » murmura-t-elle. « Oubliez votre rang ?» s'écria Newman. « Eh bien, mais vous me le rappelez au contraire. Votre place est ici, vous savez. Vous êtes d'ores et déjà à mon service. Vos gages en qualité d'intendante ont commencé à courir depuis 15 jours. Pourquoi ne pas ôter votre chapeau et ne pas entrer en fonction immédiatement ?»« Ôter mon chapeau ? C'est que je n'ai pas porté de bonnet et, avec votre permission, monsieur, je ne pourrais faire mon service dans mes habits des dimanches. »« Qu'importe vos habits ?» dit gaiement Newman. « Je vous en achèterai d'autres. » Mrs. Bread le regarda d'un air solennel et étendant les mains sur son corsage de satin fané. « Oh, monsieur, je tiens mes affaires. Ce sont de vieilles amies pour moi. Je pense en tout cas que vous avez quitté pour tout à fait ces misérables gens. Eh bien, monsieur, me voilà. C'est tout ce que je puis vous dire. Me voilà ici, pauvre Catherine Bread. C'est tout de même étrange, et je ne me reconnais pas moi-même. Je ne me serais jamais cru si hardi. Mais en vérité, monsieur, j'étais aussi loin que mes forces peuvent me porter. Voyons, voyons, Mrs. Bread, remettez-vous, que diable, un peu d'énergie. Il est temps d'oublier les mauvais jours et d'en prendre à votre aise. Je pense, fit-elle d'une voix tremblante, que ce serait plus respectable si je pouvais... Si vous pouviez prendre votre retraite, dit Newman avec bonté, croyant deviner sa pensée, et renoncer au service, n'est-ce pas ? Et renoncer à toute chose, monsieur. Tout ce que je demande, c'est un enterrement protestant convenable. » Newman éclata de rire. « Un enterrement? Comment? Mais vous enterrez aujourd'hui que voilà heureuse et tranquille serait une jolie pièce d'extravagance. Ce sont seulement les canailles que leur enterrement rend respectable. Les honnêtes gens comme vous et moi doivent vivre tout leur temps et vivre ensemble. Voyons, avez-vous apporté vos bagages? » Ma malle est ficelée et fermée, mais je n'ai pas encore averti Milady. Avertissez-la et finissez-en avec elle. Ah, je voudrais bien être à votre place. Je serais heureuse de vous la céder, monsieur. J'ai passé bien des heures pénibles dans le cabinet de toilette de Milady. Mais comment me tirerais-je de celle-ci? Elle m'accusera d'ingratitude. Eh bien, dit Newman, vous l'accuserez de meurtre, voilà tout. Oh non, monsieur, je n'oserais pas, moi, soupira Mrs. Bread. Vous n'avez pas l'intention d'en parler? Tant mieux, laissez-moi ce soin. S'il m'appelle une vieille femme ingrate, je n'aurai rien à répondre, mais c'est mieux ainsi. Elle sera ma maîtresse jusqu'au bout, ça sera plus respectable. Et vous viendrez à moi, et je serai votre maître, dit Newman gaiement, ça sera encore plus respectable. Mrs. Bread avait peine, évidemment, à se remettre. Elle regarda Newman si longtemps et si fixement, sans rien dire, et avec une sympathie si intense et si triste, qu'il aurait eu plus de prétexte qu'elle pour être embarrassée. À la fin, elle dit doucement, « Vous ne paraissez pas bien, monsieur. »« C'est assez naturel. J'ai suffisamment de motifs pour ne pas être à mon aise. Être très indifférent et très féroce, très triste et très joyeux, très affaissé et très guilleré, tout cela en même temps, eh bien, c'en est assez, je pense, pour éprouver un homme. » Mrs. Bread poussa un léger soupir. « Je peux vous dire quelque chose qui vous rendra tout à fait triste, monsieur, si la diversité de vos sentiments vous gêne, à propos de Madame de Saint-Tré. » Que pourriez-vous me dire? Non pas que vous l'avez vue. » Elle secoua la tête. « Non, en vérité, monsieur, et je ne la verrai plus jamais, ni Milady non plus, ni Monsieur de Bellegarde. » « Vous voulez dire qu'elle est étroitement gardée? » « Oui, enfermée, perdue à jamais pour nous tous. » Ces mots semblèrent arrêter les battements du cœur de Newman. Il s'appuya contre le dossier de son fauteuil, regardant fixement la vieille femme. Ils ont essayé de la voir, et elle n'a pas voulu, elle n'a pas pu, bégaya-t-il. Elle a refusé, pour toujours. Je l'ai pris de la femme de chambre de Milady, qui le tenait de Milady elle-même. Pour en avoir parlé à une servante, il faut que Milady ait été bien bouleversée. Si Madame de Saint-Tré ne les voit pas maintenant, elle perd sa seule chance. Quelques jours encore et il sera trop tard. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que les autres femmes, les mères, les sœurs, les filles, comment les appelez-vous, ne lui permettront pas? C'est ce qu'on entend par la règle de la maison, de l'ordre, je pense. Il n'y a pas de règlement aussi sévère que ceux des carmélites. Les condamnés en prison sont bien traités en comparaison. On porte là de vieilles nippes brunes, à ce que m'assurait la femme de chambre, dont vous ne voudriez pas pour couverture de cheval. Et la pauvre comtesse aimait tant les vêtements soyeux. Elle n'aurait jamais voulu porter quelque chose de rude. Elle couche sur la pierre, continua Mrs. Bread. Oui, sur la pierre. Elles ne sont pas mieux que, elle hésita pour une comparaison, que les chaudronniers. Elle renonce à tout, même au nom de leur pauvre nourrice les appelait. Elle renonce à leur père, à leur mère, à leurs frères et sœurs. Pour ne pas parler des autres personnes, ajouta délicatement Mrs. Bread. Elles ont un linceul sur leurs vêtements bruns et une corde autour de la taille et se lèvent au milieu des nuits d'hiver pour aller, par le froid, prier dans la chapelle de la Vierge Marie. Ah, la Vierge Marie est une dure maîtresse. » Mrs. Bread s'était assise, pâle, les yeux secs, avec ses bras croisés sur les genoux. Newman poussa un mélancolique soupir en se cachant la tête dans ses mains. Il y eut un long silence. « Où est cet endroit? Où est ce couvent ?» demanda tout à coup Newman. « Il y a deux maisons distinctes, » répondit Mrs. Bread. « J'ai découvert ça. Je pensais que vous seriez bien aise de savoir, quoique ce soit une triste consolation à mon avis. L'une d'elles est dans l'avenue de Messine, c'est là que s'est retirée Madame de Saint-Tré. L'autre est dans la rue d'Enfer. C'est un nom terrible, n'est-ce pas? Vous savez, je suppose, ce qu'il signifie. Dites-moi, puis-je arriver jusqu'à elle? Quand bien même il me serait impossible de lui parler, puis-je la voir, à travers une grille, une porte, n'importe quoi, là où elle est? Ça ne vous servirait à rien, monsieur, on l'enverrait plus loin, voilà tout. Je veux y aller, coûte que coûte. Avenue de Messine, dites-vous, et on les appelle les Carmélites. Je m'en souviendrai. Je dois ajouter un renseignement, monsieur. Le couvent a une chapelle et on peut y être admis le dimanche pour entendre la messe. On ne voit pas les pauvres créatures qui sont enfermées là, mais à ce qu'on m'a affirmé, on peut les entendre chanter. Comment ont-elles le cœur de chanter? Je m'arrangerai quelques dimanches pour y aller. Il me semble que je reconnaîtrai sa voix entre mille. Newman regarda son intendante avec une profonde reconnaissance. « Merci, » dit-il en lui serrant cordialement les mains. « Si quelqu'un entre là, ce sera moi, je vous le jure. » Et comme Mrs. Braid faisait mine de se retirer, il alluma une bougie et la lui remit. « Il y a ici une demi-douzaine de chambres qui ne servent à rien. Allez, et choisissez-en une à votre convenance, celle qui vous plaira le mieux. Vous savez, cela vous est bien dû. » Mrs. Braid ne resta absente qu'un quart d'heure. « Eh bien, avez-vous trouvé votre affaire ?»«
Une chambre, monsieur. Elles sont toutes trop belles pour une vieille carcasse comme moi. Il n'y en a pas une qui ne soit dorée. Mais, je dois le dire, c'est bien mal tenu. »«
Je vois que vous avez besoin d'une Anglaise soigneuse, qui ne craigne pas de prendre un balai. » Newman l'assura que depuis longtemps il soupçonnait ses domestiques de fainéantise et comptait sur elle pour mettre ordre à cet état de choses abusif. Sur quoi Mrs. Braid, jetant tout autour du salon des regards de compassion, déclara accepter cette mission, dont le caractère sacré lui donna le courage de supporter sa rupture avec Madame de Bellegarde. Puis elle se retira en saluant cérémonieusement. Elle revint le lendemain, accompagnée de ses mâles cette fois, et quelques instants après, comme Newman entrait dans le salon, il la trouva accroupie sur ses genoux devant un canapé dont elle recousait la frange. « Comment avez-vous quitté votre maîtresse ? » lui demanda-t-il. « Ça a été plus facile que je ne m'y attendais. J'ai été parfaitement poli. Avec l'aide de Dieu, je me suis souvenu qu'une honnête femme n'a pas à trembler devant une coupable. Je le crois parbleu bien. Et c'est elle que vous entrez à mon service ? Elle m'a demandé où j'allais et je vous ai nommé. Qu'a-t-elle dit à cela ? Elle m'a regardé dans le blanc des yeux et est devenue toute rouge. Alors elle m'a dit de partir à l'instant. J'étais prête. J'avais déjà prié le cocher qui est anglais de descendre ma pauvre malle et d'aller me chercher une voiture. Mais quand je voulus sortir de l'hôtel, je trouvai la porte fermée. Milady avait donné l'ordre au concierge de ne pas me laisser sortir et d'après les mêmes ordres, la femme du concierge, une vieille hypocrite, était partie en voiture chercher M. de Bellegarde à son club. « elle a peur !» s'écria Newman d'un air de triomphe. « J'avais peur aussi, monsieur. » Mais j'étais en même temps horriblement vexé. Je le pris de haut avec le concierge et lui demandai de quel droit il usait de violence envers une honorable Anglaise qui depuis 30 ans vivait dans cette maison bien avant qu'il y fût entré. Oh, monsieur, je fus vraiment noble et grande et il ne sut que répondre. Je promis un bon pourboire au cocher s'il me conduisait vite. Il n'en alla pas moins terriblement lentement. Il me semblait que nous n'arriverions jamais à votre maison bénie. J'en tremble encore. J'ai mis au moins 5 minutes à enfiler mon aiguille. Eh bien, Mrs. Braid, dit gaiement Newman, « si vous voulez, je vous donnerai une petite domestique pour enfiler vos aiguilles. » Et il sortit en murmurant, « Elle a peur, elle a peur. » Notre Américain n'avait pas montré à Madame Tristram le précieux papier qu'il gardait soigneusement dans son portefeuille, mais depuis son retour à Paris, il l'avait vu plusieurs fois. « Il me semble, lui dit-elle un jour, que vous êtes dans une étrange disposition d'esprit, plus étrange encore que ne le comporte votre triste situation. » « Votre désappointement vous a-t-il donc troublé la cervelle ? On vous prendrait pour un homme sur le point de faire une maladie, et cependant je ne vous ai jamais vu si agité et si actif. Tantôt vous restez là, devant moi, assis, la tête penchée, et comme si vous aviez résolu de ne plus sourire jamais. Tantôt vous vous livrez à des éclats de rire presque fous, et faites force plaisanterie. Vous voulez vous étourdir, oublier vos chagrins, soit, mais que diable, vous allez trop loin. » « Je vous demande en grâce de ne pas être si étrange. » « Je comprends, dans une certaine mesure, ma responsabilité dans une affaire qui a si mal tourné pour vous. Mais vraiment, le malaise dont vous paraissez atteint m'est insupportable. Soyez mélancolique tant que vous voudrez ou stoïque si c'est votre idée. Gardez-moi rancune, j'y consens, d'avoir osé me mêler de votre destinée. À cela, je n'aurai rien à dire et je me soumettrai à tous vos reproches. Mais pour l'amour de Dieu, ne soyez pas incohérent. C'est en vérité trop agaçant. » C'est comme ces gens qui parlent dans leur sommeil, ils m'ont toujours effrayé. Tenez, je prends tellement au sérieux les obligations morales qui m'incombent relativement à cette affaire
que je ne me croirai quitte envers vous qu'après vous avoir trouvé la femme la plus capable, dans les deux hémisphères, de vous faire oublier, madame de Saint-Tré. »
Oh, dit Newman, nous ferons mieux de ne pas ouvrir un nouveau compte.
Vous pourrez m'enterrer quelque jour, mais vous ne me marierez jamais, c'est trop épineux.
J'espère en tout cas, ajouta-t-il, que je ne dis rien d'incohérent, en vous informant de mon désir de me rendre dimanche prochain à la chapelle des Carmélites, dans la rue de Messine. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'un des prêtres catholiques, un abbé, je crois.
Je l'ai vu ici. Vous savez, ce vieux gentleman si paternel, avec une large ceinture. Dites-lui, je vous prie, que j'ai besoin d'une permission spéciale, et chargez-le de me l'obtenir.
« Je suis très heureuse, s'écrie avec joie Madame Tristram, que vous me demandiez un service.
Vous entrerez dans la chapelle, je vous en réponds. L'abbé dut-il se faire défroquer pour vous en avoir fourni les moyens ?»
Deux jours après, elle lui annonça que tout était arrangé. L'abbé, enchanté de lui être utile, le présenterait lui-même, dans les règles, à la porte du couvent. Cela ne ferait aucune difficulté.